l'été, l'émission estivale.
Chapaca, sonero.
Yo escucho la radio, me gusta la radio y yo escucho TFM.
Chapaca.
Du lundi au vendredi de 18h30 à 19h.
Crac l'été, l'émission estivale.
99.9, 99.9, 99.9, crac. Ouais, est-ce que le rouge?
Les autres, ils sont tous baissés.
Faites du lundi au vendredi, c'est ça.
Crac l'été, l'émission estivale de Radio PFM. Du lundi au vendredi de 18h30 à 19h. 99.9, 99.9.
Bonjour à tous, il est 18h30, 31 même à l'antenne de Radio PFM et c'est le deuxième crack l'été 2016 avec PCH au micro. Deux invités ce soir, on aura Jean-Claude Rousseau et Bernie vous le connaissez, c'est une goutte de jazz et il va nous parler du tempo latino de l'an dernier. Donc on va commencer avec un extrait de musique que Jean-Claude passe régulièrement dans ses stages. On y va. Jean-Claude Rousseau, bonsoir.
Bonsoir.
On est dans les alpages, hein, on est...
En Arménie peut-être.
Ah, en Arménie, c'est ça, oui. Une forme de quiétude. Mm-hmm. Une musique que tu utilises pour permettre une concentration des stagiaires quand tu les utilises dans tes stages.
Oui, c'est ça. Souvent, cette musique, celle-là ou beaucoup d'autres, hein, sont utilisées au moment d'un travail de la naissance du masque. La naissance du masque, c'est un exercice premier qu'on utilise quand les gens découvrent le masque. C'est un masque neutre, un masque qui n'a pas de trait particulier, ni homme ni femme, qui n'exprime aucun caractère, aucune expression de visage, qui permet dans un premier temps de cacher le visage du comédien ou du stagiaire qui vient découvrir ce travail. Et je lui demande d'être en position abandonnée, décontractée sur le sol ou sur un objet, n'importe comment, mais de façon non classique, c'est-à-dire pas comme le corps a pris l'habitude de se coucher, de s'asseoir, de dormir, de se reposer, mais comme si ce corps était une masse inerte de chair abandonnée afin de vivre une nouvelle naissance d'un personnage neutre. Donc cette musique, nous en voyons assez loin, dans les profondeurs, dans la recherche, permet à l'acteur de se détendre, de faire un voyage à l'intérieur de son propre corps, de la tête aux pieds, et d'essayer d'être à l'écoute de lui-même, des différentes sensations qui le traversent, pour, dès qu'il perçoit quelque chose en lui, qu'il essaye de faire vivre ce masque qui, comme on le disait autrefois, c'est un masque mort puisqu'il n'a pas de vie. Et le but, c'est d'utiliser le corps, réinvestir le corps pour l'expression du masque. Souvent, dans notre expression habituelle, on est en train de se regarder, on se regarde nos regards, nos visages, nos expressions de front, de joues, de lèvres ou de doigts et de mains. Et en fait, là, on n'a plus ça pour s'exprimer. Il faut s'exprimer avec autre chose. Et le masque neutre permet le réinvestissement du corps dans l'expression de l'acteur.
C'est ça. En fait, on retranche finalement ce qui est dans la vie quotidienne. On est toujours à faire des mimiques ou pour exprimer. Mmh. Et donc, on doit s'exprimer par autre chose. Donc
c'est
le
ça.
Corps.
C'est ça.
Ouais. Alors tes débuts en tant que comédien et metteur en scène, tu nous as parlé en gros aussi, tu as fait évoquer la méthode Stanislavski. Mm-hmm. Est-ce que tu peux expliquer tout ça?
Alors, ça risque d'être long, mais ouais, bon. On va essayer de résumer. Alors Déjà, première question, Nat, c'est que je fasse des interventions dans les écoles, dans les lycées ou dans d'autres structures, on me demande toujours, on me présente toujours comme un comédien. Moi, j'insiste de dire que je suis avant tout metteur en scène et pédagogue, puisque j'ai dirigé une école de théâtre pendant 18 ans à Paris pour les comédiens professionnels. En tant que comédien, les souvenirs qui me restent en tant que comédien, c'est justement l'improvisation. Ce sur quoi je reviens aujourd'hui à Arras avec les stages qui touchent beaucoup à l'improvisation et le masque étant un outil pour ça. Quand j'ai improvisé, c'était dans une structure qui était un centre expérimental d'expression créé par Caroline Carlson et on me demandait toutes les semaines d'improviser en public sans avoir aucune base, des fois pendant 4 heures avec des gens comme Urban Sachs ou des gens qui participaient à cette association. Et donc c'était vraiment de l'improvisation. Le souvenir de comédien, c'est beaucoup ça. Et dès que je me suis intéressé à la formation de l'acteur, en fait à la méthodologie de l'expression, quel est le processus pour recréer, quand on le veut, un état créateur, un état d'expression juste, très personnel, qui n'est pas une copie conforme de ce qu'on voit dans les émissions de télé ou autre part, mais qui vient de soi. Et donc là, j'ai fait beaucoup de recherches théoriques et pratiques, et là, j'ai rencontré des gens qui avait envie de travailler selon la méthode Stanislavski. C'était assez nouveau à Paris à l'époque. Depuis, tout le monde peut plus ou moins s'en réclamer. Mais à l'époque, c'était pas vraiment traduit, ces textes. Il a fallu traduire des textes russes, des textes de Stanislavski, de Vakhtangov, de Meyerhold, qui étaient des pionniers dans l'art de l'acteur. En fait, ils n'ont fait que d'exprimer par écrit ce qui existait depuis des siècles, mais que personne ne parlait. Au lieu de jouer la main sur le cœur, à l'époque, on jouait la main sur le cœur pour dire « je t'aime » et on regardait tout le temps les balcons et les personnes célèbres qui étaient dans la salle. Puis à un moment donné, ce Stanislavski s'est dit « mais en fait, pour exprimer de vrais sentiments, peut-être que les personnages devraient se regarder et se parler, mais d'une certaine façon pour que le public entende ce qu'il y a à l'intérieur. » D'eux. Donc c'est devenu le jeu psychologique et Stanislavski a passé sa vie à rechercher avec des différents types de personnalités, que ce soit des gens de l'opéra, que ce soit des comédiens. Il a créé plusieurs studios et il a créé le théâtre artistique de Moscou, dont ce qui me plaisait beaucoup, c'est qu'à l'entrée du théâtre artistique de Moscou, c'est marqué un théâtre accessible à tous. Et forcément, ça c'est quelque chose qui me touche, moi qui suis né dans le milieu ouvrier, dans des castors SNCF où tout le monde partageait tout et c'était j'étais très sensible au fait que le théâtre soit accessible à tous. Et ça se sent beaucoup avec la compagnie Les Héritiers, car depuis 2003, où la compagnie a été créée dans le Pas-de-Calais, on travaille toujours en lien avec les habitants.
Alors, justement, par rapport à... Tu as organisé un banquet, moi j'appelle ça un banquet, mais c'est une auberge espagnole, en fin d'année. Et moi, j'ai lancé comme ça l'idée d'écrire un slam collectif, c'était la première fois. Donc j'ai récolté les bouts de nappe et je les ai mis au propre. Mais alors évidemment ma référence en termes de poésie, c'était évidemment un Arrageois dont la mère habitait à Arras, et le fameux Paul Verlaine. Et donc on va écouter la fameuse chanson d'automne.
Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte.
Voilà, c'était une chanson d'automne. Je crois que c'est dit par... je crois que c'est François Perrier qui le dit. Donc c'est pas tout jeune, mais bon, c'est une rythmique assez intéressante puisque Paul Verlaine a retranché un pied pour donner une espèce de déhanchement. Au lieu d'avoir des quatre pieds pour tous ses vers, il en a retiré un et ça donne ce déhanchement qu'on entend. Alors évidemment, avec ces mots-clés dont tu as un peu parlé, que j'ai évoqué, c'est-à-dire on en a pris cinq ce soir-là, c'était masque larvaire, héritier, neutre et comédien. avec chacun évidemment des rimes dont on cherchait chacun tout en mangeant, voilà.
Et en blaguant.
Voilà. Et alors, bon, le premier qui est, alors c'est évidemment en rime, c'est rime A A B C C B, voilà. Donc ça donne retire ton masque, arrête tes frasques, fais pas chier, masque larvaire sur ta paupière, j'ai pas le pied. Voilà, bon, c'est pas tout à fait du trois pieds, si vous écoutez bien, mais c'est pas encore au point, mais c'est un processus en cours. Il y a eu d'autres strophes écrites. Il y avait soit plus fantasque dans cette bourrasque, soit pas si chiante, mais plus brillante, soit pas si neutre, fais pas ta pleutre. Il y avait Raffaella qui a mis que des mots entre le français et l'italien. Donc il y avait comediante, il y avait tutte riante, il y a délirante, fascinante, hallucinante, très méchante. Il y avait aussi soit plus fantasque pour cette bourrasque, soit pas si neutre, fais pas ton pleutre, mais la rime B n'est pas encore trouvée. Et il y a aussi soit plus fantasque dans cette bourrasque au réverbère, soit pas si neutre, fais pas ton pleutre, mensongère. Ça, c'est celle que j'ai retravaillée tout à l'heure. Mais c'est en process, évidemment. On verra la suite et on doit se revoir le 12 juillet, entre autres, pour filmer, parce que tu aimes bien travailler à la caméra. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais avec le fait de filmer
Non, c'est en fait juste, les gens souvent ont besoin de se voir et comme je dirige les ateliers, c'est pas la même personnalité de filmer le regard, d'avoir le regard pour filmer ou le regard presque à l'intérieur de l'acteur pour comprendre ce qu'il est en train de vivre au moment où il suit ou pas ses impulsions ou s'il s'écoute vraiment ou s'il observe ce qui est autour de lui. Donc quand je dirige les acteurs, je peux pas faire autre chose que d'être dans leur énergie, dans leur investissement sur scène, et donc je peux pas filmer. C'est pour ça qu'on s'est dit à plusieurs, si on se prenait des temps pour revivre des exercices, et là dans ce cas je dirigerais plus d'exercices, je les filmerais. J'ai d'ailleurs demandé à un des membres des ateliers qui connaît bien le théâtre, qui suit l'atelier du lundi, Hugues Delaby, qui est connu sur Arras et qui va aussi prendre en main certains exercices pendant que je filmerai, afin que ce soit plus simple.
D'accord, donc ça c'est pour la conclusion de notre année. Tu voulais nous parler d'un livre.
Je peux en parler, oui. Oui. C'est parce qu'il y a un livre qui s'appelle « Ils nous l'ont raconté », qui est écrit par Aline Cheval et Jacqueline de Werth. En fait, ce sont des membres du bureau de l'association Les Héritiers. Ça fait, depuis 2003, la compagnie Les Héritiers a créé une dizaine de spectacles qui s'appelaient « Trous de mémoire, autobiographie théâtrale des habitants », puisque le processus était d'abord en milieu rural, on était en dessous de Saint-Paul-sur-Ternoise, et en arrivant dans la région, je voulais créer une compagnie justement accessible à tous, et pour que ça soit accessible à tous dans ce milieu rural, quand on était à la ferme du Ponchel, je me suis dit on va aller rencontrer les habitants, les questionner, les filmer et avec leurs paroles en faire des spectacles. Je suis d'ailleurs en train de faire, juste à l'instant, je viens du quartier Jean Jaurès à Arras, où je suis en train de questionner des habitants de ce quartier pour faire un spectacle qui aura lieu cette année pour les fêtes du patrimoine à l'université. Alors ils nous l'ont raconté, c'est en fait les gens depuis des années, des gens sont morts, sont dans ce livre, ont témoigné, ça en a fait des spectacles. Ils ont raconté des histoires complètement incroyables de leur vie, qu'ils soient marins-pêcheurs, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient travailleurs à l'usine, dans le textile ou autre part, ou simplement des gens qui vivaient dans cet endroit. Tous ces gens nous ont raconté des histoires, on en ferait des dizaines de livres. Et à chaque fois, les petits-enfants, les enfants me demandent, est-ce qu'on peut avoir encore la parole du grand-père ou du père, etc. Et on n'avait pas le temps ni les moyens de répondre à tout le monde. Donc on a rédigé ce livre avec les paroles des habitants, et c'est un livre aux éditions Nord Avril. Ils nous l'ont raconté, témoignages d'habitants du Pas-de-Calais et de la Somme, et en fait qui relate bien ce que vivent les gens dans nos régions. J'étais par exemple été étonné qu'en milieu rural on pense toujours à agriculture, mais j'ai habité à côté d'Auxy-le-Château, et en fait il y avait des usines à Frévent de 1000 employés. Il y avait des usines et beaucoup de travail dans ces endroits de la campagne qui ont disparu et qui forcément... J'étais étonné en arrivant de Paris de voir que dans cette région, il y a 3 générations de chômeurs, des gens qui n'ont jamais connu ce que c'est que le travail. Et donc ce livre relate en fait toute la filiation justement entre les parents et les enfants Ont-ils repris le métier de leurs parents? Ont-ils tout fait pour pas le reprendre? C'est toute leur histoire. Et ce livre se lit vraiment très très bien.
Tu peux nous rappeler le titre?
Ils nous l'ont raconté. Le titre, c'est Ils nous l'ont raconté, aux éditions Nord Avril. Ça se trouve dans toutes les bonnes librairies, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut souvent le réclamer. Mais ça, à Arras, vous pouvez le trouver à la librairie La Grande Place.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
Non, la Grande Librairie. La Grande Librairie.
La Grande Librairie, oui, c'est librairie. Ça. Ouais. on s'était connus à travers un atelier de dessin. Je ne sais pas si tu te souviens, tu faisais un peu de fusain et moi j'avais un peu fait de dessin. Mais surtout, tes spectacles, j'avais beaucoup apprécié le spectacle itinérant que tu avais fait dans la tour
Verlaine, justement.
Voilà, le revoilà. Et donc, c'est un spectacle itinérant. Et donc, évidemment, c'est quelque chose en ce moment qui se met en place depuis déjà 10 ans. Il y en a déjà beaucoup. À Rennes, il y avait le Lardou qui faisait ça aussi. Et donc, vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. C'était pour l'inauguration après travaux, de faire un spectacle. Mmh. Et tu as aussi travaillé sur Saint-Michel, la résidence.
On a
Saint-Michel.
Une convention avec la ville d'Arras pour faire pendant 3 ans ce type. En fait, on l'a fait pendant 4 ans, ce travail dans différents quartiers qui sont en fait touchés par la restructuration de leur quartier. Et donc, on a commencé par la tour Verlaine, 19 étages de solitude. Et il fallait jouer dans cette tour. Et donc, on a joué dans les cages d'escalier, dans les ascenseurs, dans des appartements témoins qu'on a créés, en reprenant la parole des habitants de cette tour pour restituer leur parole. Ça a été fantastique. Et du coup, la ville d'Arras était intéressée pour continuer le principe. Et on l'a fait au quartier Saint-Michel. On l'a fait au quartier Baudimont et cette année, pour terminer le cycle, on le fait au quartier Jean Jaurès.
Alors, on écoute un petit peu de Latino, ça sera Ernesto Tito Puentes en live et après il y aura Jean-Paul qui va venir un petit mot du festival. Voilà, c'est le live, un des lives de Ernesto Tito Puentes. Mais on va vers Jean-Paul qui a assisté à une partie du festival OFF.
Ouais, les Daras, simplement pour résumer tout ça, c'était, pour ce que j'ai vu, c'était très bien. Et j'ai encouragé cette équipe de bénévoles à ce qu'il y ait une deuxième programmation des Daras l'an prochain, un contre Main Square en quelque sorte. Et ceci grâce aussi à toute l'équipe et à tous les moyens techniques qui ont été proposés, c'est-à-dire IFI et Podium. Alors maintenant, j'ai envie de vous parler d'autre chose, et des vacances à 2 euros. Des journées de vacances à 2 euros, c'est les mercredis de l'été qui sont mis au point par le conseil départemental. Alors je vous donnerai un numéro de téléphone à la fin, prenez déjà un stylo.
Ouais.
C'est gratuit jusqu'aux 18 ans inclus et c'est sinon pour les adultes 2 euros l'aller-retour. Ça se passe tous les mercredis de cet été. Un aller-retour chaque mercredi. Alors pour demain, téléphoner, c'est un peu compliqué, hein, ça sera terminé, mais dès le 13, c'est-à-dire que demain vous pouvez téléphoner pour le 13 juillet, puis le 20 juillet, puis le 27 juillet, et ensuite vous aurez les 3, 10, 17 et 24 août.
Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont envie de faire des vacances pas trop chères,
ouais,
dans la région.
Simplement une journée. Donc on part d'Arras et on va soit à Boulogne, soit au Touquet pour ces premiers jours. C'est le numéro de téléphone maintenant que vous avez un stylo, c'est le 0800 820 003, je répète, 0800 820 003, l'appel est gratuit, et c'est 2 euros l'aller-retour. Salut.
Las cosas no fueron buenas, pero al final se arreglaron.
Yo le doy las gracias por haberme recibido, siempre sabiendo que son muy buenos amigos.
Fueron cosas lindas y buenas las que yo encontré aquí. Yo te aseguro, mi hermano, por eso mírame aquí. De paciencia, todo, todo se puede alcanzar.
Hein, sacré Ernesto Tito Puentes, hein, c'était quand même, il se baladait avec son bob, il était rigolo, il y a quand même 80, il avait non, 80, non, déjà 80 ans.
Tito Puentes, il a 88 ans.
88, tu vois.
Il a 88 ans.
Ouais. Faut signaler quand même aux gens qui ne connaissent pas, c'est qu'il a été un grand arrangeur de studio. Hein, notamment
oui,
de Claude François
avec,
de...
dans la variété, la variété française de, voilà. De l'année, des grandes années ouais, dans les studios etc. donc ouais. C'est un cubain mais qui a fait toute sa carrière à Paris,
à Paris ouais. Ouais. Et toi tu as eu l'honneur de travailler.
Alors,
avec
l'honneur,
lui
disons l'occasion de travailler en tant que stagiaire hein, avec Ernesto Tito Puentes parce que effectivement l'an dernier je suis allé faire un stage de musique à Vic-Fezensac qui est le lieu où se déroule un festival de salsa chaque année, un festival important, au niveau européen, c'est un des plus grands.
Et alors, les musiciens arrivent alors, même avant pour travailler
voilà,
une semaine.
Moi, j'y suis allé en tant que musicien stagiaire, et ça dure une semaine, le stage. Et l'invité du stage, c'était Ernesto Tito Puentes, qui est venu faire ce qu'on appelle une masterclass. Il est venu donc nous expliquer un petit peu sa musique, et on a joué avec lui dans une sorte de big band.
Il y a une restitution le samedi en fin de semaine,
voilà,
auquel j'ai assisté.
Chaque année, il y a une restitution à la fin du stage qui est sur une scène
à côté des arènes.
À côté des arènes à Vic-Fezensac. Il y a quand même beaucoup de monde. C'est quand même impressionnant.
C'était chouette. Hein.
C'est très sympa. Hein. Il fait en général très beau, très chaud. Et l'ambiance à Vic-Fezensac, c'est une ambiance de danse salsa. C'est comme une sorte de grande soirée salsa dans toute la ville.
Il faut signaler que c'était à la fin du mois d'août. Hein.
Ah non, fin juillet.
Oui, pardon, du juillet. Pardon. Voilà,
le stage de musique commence pour moi le 24 juillet. Ouais. Et le festival de musique, véritablement, commence le jeudi suivant. Donc on doit être aux alentours du 28 à peu près.
Ouais.
Et ça dure 4 jours.
Alors les 4 jours, c'est vrai qu'il y a pas mal de folie, mais peut-être plus en dehors des arènes, j'ai l'impression. Enfin, moi j'ai vu qu'un seul spectacle sur les 4.
Il y a un spectacle payant qui rassemble peut-être pas toujours beaucoup de monde finalement, parce que les gens viennent plus pour
l'ambiance,
pour s'amuser, pour danser. Voilà. Et c'est un peu deux aspects qui ont du mal parfois à se mélanger.
Donc l'an dernier, j'étais parti avec un Agra et j'en ai fait toute une ambiance sonore pour essayer d'immerger l'auditeur dans ce festival-là.
Oui.
Donc vous pouvez l'écouter sur le site de Radio PFM dans A4 Car, puisque c'est celle de Tempo Latino 2015, elle y est. Et donc toi, tu y retournes cette année.
J'y retourne cette année. Ouais. Voilà, donc je peux inviter tous nos auditeurs à rejoindre Vic Faisant Sac à partir... alors la date m'échappe un peu dernier jeudi de juillet quoi.
Ouais, c'est ça. Et par contre, toi, toute l'année, tu as parlé de jazz dans ton émission Une Goutte de Jazz. Mmh. Et alors, ton rapport par rapport à quand tu fais une masterclass avec ça s'est passé comment?
Ça ressemble énormément au jazz en fait. Hein. La musique salsa. Là encore, il y a plusieurs sortes, mais quand j'ai travaillé avec Ernesto Tito Puente, c'était du big band en fait. Mm. C'était de la musique de big band. Donc il n'y a vraiment pas énormément de différence entre cette musique cubaine et le jazz. Voilà. Après, dans la musique traditionnelle cubaine, il y a des différences qui sont surtout au niveau rythmique. Hein. Le rythme est très différent, les rythmes latins sont très spéciaux. Et au niveau du style, il y a beaucoup de chants hein, dans la musique traditionnelle cubaine, et ce que on ne trouve pas forcément en général dans le jazz maintenant, quoi.
Alors on va écouter, il est déjà 18h57 et il est temps qu'on écoute un conseil de Polar pour lire sur la plage, dans le jardin, n'importe où. Et c'est évidemment Guy avec la rubrique Noir c'est noir.
Tandis que Pablo, qui cherchait partout une gamelle de fer tournée autour de la charrette dont le timon était calé à l'horizontale, Martin allumait un feu à l'ombre des feuillages. Puis ils s'accroupirent tous deux, firent griller des morceaux de mouton séchés sur des branches qu'ils avaient taillées en pointe, et mangèrent la viande avec des tortillas et des haricots frits que Pablo avait apportés dans sa gamelle. Quand ils eurent terminé, ils puisèrent de l'eau dans le fleuve et burent longuement. « Contento, » dit Pablo en essuyant de la graisse de mouton qui avait coulé sur ses mains. « Elle est pas belle, la vie ?» fit Martin qui, du bout de l'index, dessinait dans le sable de la rive ombragée. « On n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux, » ajouta Pablo. « Mais ce pas grand-chose est difficile à obtenir. » « Un coin peinard, un bon bouquin ?» Et on pourrait dire à peu près la même chose. Si vous n'êtes pas allergique aux westerns et aux romans d'aventure, je vais dire ça comme ça, même si j'estime que ça va ici un peu plus loin, avec L'aventurier du Rio Grande de Tom Lea, vous avez le bon bouquin, reste à vous trouver le coin peinard. Et pour cela, pas besoin d'aller jusqu'à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ça c'est Tom Lea qui nous y emmène, et c'est avec Martin Brady, sur son super étalon noir, le train, au moment où se situe ce roman, n'est pas encore arrivé à cet endroit des États-Unis. C'est donc avec Martin Brady qu'il nous fait traverser à plusieurs reprises cette frontière mythique. Martin, alias Marty, s'est tout d'abord réfugié au Mexique pour fuir la justice américaine, une justice expéditive qui ne s'est pas posé de questions face à cet adolescent qui a tué l'assassin de son père. Il y a trouvé au Mexique une deuxième famille, un métier aussi dont, alors qu'il sera revenu du côté des gringos, il n'est pas vraiment fier, pistolero. Si quelques fortes amitiés le retiennent au Mexique, son cœur reste du côté du Texas. Mais avant d'y revenir durablement, il aura à traverser plusieurs fois le fleuve frontière, et notamment avec Pablo pour convoyer du minerai. Cela l'amènera à se frotter à presque tous les types de personnages qui peuplent les westerns, de la crapule qui dégaine au moindre regard de travers, aux Texas Rangers, défenseurs de la veuve et de l'orphelin, en passant par le juge corrompu ou le cow-boy inséparable de son troupeau, sans oublier les Indiens qui apparaissent ici sous une seule facette, et c'est peut-être la seule réserve qui peut être faite à ce roman, une seule facette, donc celle de guerriers sanguinaires. L'aventurier du Rio Grande de Tom Léa aux éditions Actes Sud dans la collection L'Ouest, le vrai. Encore une bonne pioche de Bertrand Tavernier, directeur de cette collection qui nous fait découvrir un auteur tout aussi à l'aise pour décrire paysages et personnages que pour les dessiner. Vous trouverez dans le livre quelques-uns de ses dessins remarquables. Tout aussi à l'aise donc pour décrire les paysages que pour les dessiner, cet auteur, Tom Léa, donc, nous fait découvrir Bertrand Tavernier et un roman donc qui date de 1952, adapté au cinéma par Robert Parrish, un roman où il arrive que certains des personnages, je cite, « gardaient les lèvres pincées et suivaient le cours solitaire de leurs esprits reclus. » Quand je vous disais que ça allait plus loin que la simple aventure. Bonne lecture à toutes et à tous, avec mes salutations les plus à l'ouest, le vrai.
Avoir évoqué avec Bernard Goutin le tempo latino de l'an dernier, donc année 2015, le tempo latino 2016, édition numéro 23, se passe du 28 juillet au 31, à Vic-Fezensac dans le Gers. Le jeudi 28 avec Voodoo Game et Grupo Fantasma. Le vendredi 29 avec Alexander Abreu et Habana Primera et Palo. Samedi 30, Spanish Harlem Orchestra et l'African Salsa Orchestra. Le dimanche 31 avec Mamba Negra et Bichiga 70, ou plutôt Bichiga 60. Pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site www.tempo-latino.com pour avoir le détail de la programmation.